Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale qui joue les prolongations, comme je vous l'avais annoncé lors de notre précédent numéro. Radio Présence est bien passée en grille d'été lundi, mais j'ai tout de même la possibilité de vous proposer une émission inédite cette semaine. Et ça tombe bien parce que l'actualité musicale ne connaît pas de trêve estivale, au contraire. C'est même une des périodes de l'année les plus prolifiques en termes de concerts, grâce aux nombreux festivals organisés dans notre région en juillet et en août. Les mélomanes ne seront pas à la diète dans les jours et les semaines à venir. En ce moment, le festival de Toulouse bat son plein et il va se prolonger jusqu'au 11 juillet. Un autre festival vient tout juste de commencer dans la proche région toulousaine, plus précisément dans le Lauragais. C'est le festival Déoda de Sévrac et j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec celui qui en a longtemps assuré la direction artistique, Jean-Jacques Cubaine. Avec lui, nous allons nous plonger dans la programmation de l'édition 2025 du festival. C'est parti pour la rubrique Agenda d'été de Mélomanie.
Mélomanie, l'agenda.
Bonjour Jean-Jacques Cubaine, merci d'être au téléphone avec nous pour présenter cette édition 2025 du festival Déoda de Sévrac. Je disais à l'instant que vous en aviez longtemps assuré la direction artistique, mais j'ai cru comprendre que vous veniez tout juste de passer le témoin en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la nouvelle organisation en ce qui concerne la direction du festival ?
Bonjour. En effet, j'ai pris la direction du festival en 1994. Donc ça veut dire qu'il y avait compté une année de bons et loyaux services. Et donc il m'a semblé qu'il était temps quand même à un moment donné de passer le relais, peut-être tout simplement qu'il y a besoin d'un sang nouveau et d'idées nouvelles hein, pour faire vivre le festival. Et bon, j'ai quand même réfléchi à la chose et il m'a semblé que je pouvais donc, tout en restant un petit peu dans l'organigramme, hein, en tant que conseiller, on va dire, voilà. Passer donc le relais à ma fille, Marie, et à son époux, à mon gendre, donc, Xavier de Lignerolles, qui sont tous deux des artistes lyriques. Tous deux sont également, ont un ensemble de musique médiévale, qui s'appelle Ut Musica Poesis. Donc, ils sont vraiment au cœur de la musique. En plus, Marie a quand même, disons, grandi dans la musique de Sévrac et dans le festival de Sévrac. Voilà comment l'idée, au fond, de transmission, parce que ça m'a paru important. On se retrouve aussi avec les idées qui m'ont guidé pendant ces 30 années, et pas tout d'un coup tout changer, en ne tenant plus compte, au fond, de la spécificité du festival, qui est quand même celle, de bien sûr, des œuvres de Déoda de Sévrac, mais aussi du rapport à la culture occitane, très chère à Déoda de Sévrac, les rapports entre musique classique et musique du monde, ou musique traditionnelle. C'est une thématique qui est tout simplement le reflet des idées qu'a développé Déoda de Sévrac à son époque.
Oui, je crois pouvoir dire qu'avec Marie Cubaine et Xavier de Lignerolles, on est tranquille, on sait que le festival est entre de bonnes mains et que son esprit et sa vocation que vous venez de rappeler seront perpétués. On en arrive donc à cette programmation de l'été 2025 et précision aussi à ce sujet, le festival se déroule en deux parties. Il y a une partie estivale et une partie automnale. Nous allons parler de la partie estivale. Hein.
Oui, c'est-à-dire la partie en gros juillet-août.
Donc pendant l'été, il y a des concerts du 3 juillet, ça commence tout juste, au 15 août, oui. Et ces estivales se déploient sur le vaste territoire du Lauragais, en restant centré tout de même sur Saint-Félix, le village natal de Déoda de Sévrac.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Le concert du 3 juillet est passé, nous sommes le 5 là, mais je voulais que vous en disiez tout de même un mot, parce qu'il a été donné à Lavaur, et c'était une première concernant cette ville, par un grand pianiste, Jonas Vito. Le programme était très original, puisqu'il rassemblait des pièces de Déoda de Sévrac, bien sûr, mais aussi de Claude Debussy, Isaac Albéniz, Emmanuel Chabrier et Albéric Magnard. Le but était de montrer ce qu'était la musique française à l'époque de Sévrac et de ses contemporains, si j'ai bien compris.
Exactement, exactement. L'intitulé est hommage à Déoda de Sévrac. Certes, une œuvre importante de Déoda de Sévrac qui est la suite pour piano qui s'appelle En Languedoc. C'est vraiment une œuvre très importante hein, dans le parcours de Sévrac. Albéniz a été très lié à Déoda de Sévrac. Ça a été son professeur, d'ailleurs, de piano à la Scola Cantorum. Et puis ensuite, ils sont devenus vraiment très, très amis jusqu'à la mort d'Albéniz, mort très tôt, hein, en 1909. Je pense qu'ils avaient aussi la même idée de cette musique, au fond, musique savante qui est née quand même dans la musique populaire. Bon, et les suites d'Albéniz et celles de Sévrac sont assez voisines. Ils décrivent des pays et les gens qui y vivent. Hein. Ça, c'était pour Albéniz. Chabrier, bien sûr, était admiré par Sévrac pour les raisons, tout simplement, qu'il fait de la musique française, dans le sens, le goût de la nature, le goût des, aussi du populaire, entre guillemets, hein, tout en étant très savant aussi au niveau, évidemment, de l'écriture. Mais ça, c'est une des caractéristiques de Sévrac. Hein. Sévrac, au fond, adore la musique populaire, etc., mais sa musique, lui, est une musique extrêmement savante, hein, dans l'esprit de Debussy, en fait, etc., donc des choses qui sont, d'un point de vue strictement musical, importantes et complexes. Voilà, donc Albéniz, Chabrier, bien sûr. Magnard, oui, parce que ça a été un des professeurs également de Sévrac à la Schola Cantorum. Magnard appréciait beaucoup Sévrac et réciproquement. Et Claude Petit, bien sûr, qui est le maître entre les maîtres, qui a admiré Sévrac et qui a quelque part l'a inspiré. Et en même temps, Sévrac s'est trouvé un peu intimidé par rapport à la voix de Debussy. Et lorsqu'il a écrit son propre opéra, qui s'appelle Le Cœur du Moulin, il en avait fait une première version dans les années 1901-1903, enfin, là. Et c'était le moment, en 1902, il y a eu l'adaptation de Pégase et Mélisande, et il a dit à un de ses amis, qui était le compositeur Raoul de Castera, il lui a dit tout simplement, que faire après Pégase et Mélisande, qui pour lui était vraiment le summum au niveau musical. Et en effet, il a attendu beaucoup pour reprendre son opéra qu'il ne présentera qu'en 1909 à l'Opéra Comique.
Alors je disais tout à l'heure que c'était un hommage à la musique de Sévrac et à celle de ses contemporains, à la musique française de l'époque. Albéniz était espagnol, mais c'était vraiment le plus français des compositeurs espagnols. Il a longtemps vécu à Paris. Et donc, c'était Jonas Vito qui était le pianiste qui donnait ce récital. C'est vraiment un grand musicien et il enseigne d'ailleurs au CNSM de Paris. Et c'est un remarquable accompagnateur aussi. Hein.
Tout à fait, ça, on en aura l'occasion de
l'apprendre. On va en parler
le 8 août.
On va parler plus tard.
Autour des mélodies de Sévrac.
Voilà.
Mais je pense que ça a été un choix, c'est son choix. Le programme est son choix personnel. Et ça, c'est important d'avoir cette idée, au fond, de cette curiosité. Parce que le grand problème, souvent, des interprètes d'aujourd'hui, c'est que, tout simplement pour des raisons commerciales, hein, parce que leurs agents ne souhaitent pas, et parce que les directeurs, parfois, de salles et de salles de concert, souhaitent avoir les grandes œuvres les plus connues, Beethoven, Liszt, Chopin, etc., pour les pianistes. Hein. Mais de temps en temps, ce répertoire français, qui pourtant est très riche, alors, on entend du Debussy, certes, Chabrier, peu quand même.
Oui, Magnard encore moins.
Voilà, Magnard, on ne connaît pas. Albéniz, oui, par contre, on le joue, à condition évidemment d'avoir des pianistes espagnols, parce que la plupart du temps, ce sont quand même des pianistes espagnols qui viennent le jouer, notamment au piano jacobin, j'ai entendu.
Oui, oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, je disais que Jonas Vito était un excellent pianiste, un remarquable accompagnateur, mais c'est aussi un remarquable transcripteur. Et je tenais à vous faire écouter les premières mesures de sa transcription de Prélude à l'après-midi d'un faune au piano. Les premières mesures de Prélude à l'après-midi d'un faune, donc l'œuvre de Claude Debussy transcrite au piano, et cette transcription a été réalisée et jouée ici par Jonas Vito, qui donnait donc le concert d'ouverture du festival Déodat Sévrac 2025 jeudi dernier. Ce week-end des 5 et 6 juillet, il y a un stage de chant polyphonique occitan à l'Hostal d'Occitanie à Toulouse. Il est dirigé par Pascal Caumont. Peut-être un mot sur cette proposition, Jean-Jacques Cuben.
Oui, alors là aussi, c'est quelque chose maintenant qui existe depuis pas mal de temps, ce stage. À une époque, il y avait un stage qui était combiné classique et musique traditionnelle occitane. Et puis, finalement, on n'a conservé que la musique traditionnelle, dans la mesure où, au fond, on trouve beaucoup plus de personnes intéressées, disons, de chanteurs intéressés par ces musiques traditionnelles, qui sont tout simplement attachés à leurs racines, hein, que de jeunes chanteurs qui viendraient passer 8 jours, ils auraient pu passer 8 jours quand même avec Gabriel Baquet, Michel Sénéchal. Et donc, on a abandonné l'histoire du stage classique, mais par contre, depuis, nous avons donc chaque année à l'Hostal d'Occitanie, à la Maison d'Occitanie, ce stage, en général avec Pascal Caumont. Et vraiment, la référence, disons, oui, dans ce domaine.
Il dirige la classe de musique traditionnelle au Conservatoire de Toulouse.
Voilà, il est directeur du département de musique traditionnelle.
Oui, absolument.
Et donc, c'est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de simple, très agréable dans le travail, mais qui a une compétence et une... C'est une bibliothèque, on va dire, hein, oui, au niveau de la musique traditionnelle, puisqu'au fond, cette musique n'est pas écrite. Hein. Donc, quelque part, elle est dans l'oreille, il faut la conserver. Donc, et c'est le cas, bon, là, de ce point de vue-là, il a vraiment cette qualité. Et il s'intéresse aussi aux autres musiques, à la musique catalane, les musiques du Sud, on va dire, hein, les musiques polyphoniques du Sud. Et donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, est vraiment une référence que je retrouve assez régulièrement, finalement, dans la programmation, qu'on va retrouver d'ailleurs dans la partie automnale, mais autour des troubadours, cette fois-ci, parce qu'il a un nouveau programme, justement, où il fait ce rapport, au fond, entre l'inspiration, d'un point de vue texte, hein, l'inspiration des musiques traditionnelles et celle, la suite des troubadours, qui, par contre, est une musique extrêmement savante. Hein.
Donc, stage de chant polyphonique occitan, le stage d'Occitanie, dirigé par Pascal Caumont, ce week-end des 5 et 6 juillet, c'est sur inscription, bien sûr, sur le site du festival. Et puis, ce même samedi 5 juillet, il y a un concert à 19h dans la cour du château d'Issus, où l'orchestre de chambre Occitania accompagne le violoniste Stéphane Rougier. Quel programme ont-ils joué, Jean-Jacques ?
Rougier va jouer 2 concertis de Pâques, et ensuite l'orchestre symphonie de Mendelssohn et de Shostakovich, la symphonie de chambre. C'est une très très belle œuvre, très sombre d'ailleurs, très belle. Et là aussi, Stéphane Rougier est déjà venu au festival. Hein. C'est un excellent violoniste, il a été violoniste solo à Bordeaux. Il est maintenant habitué aussi à être solo au musicien du Louvre de Minkowski. Donc je veux dire, c'est quelqu'un de grande qualité, notoriété, et c'est important d'avoir au front des gens comme ça qui reviennent par fidélité aussi au festival. Et moi, j'ai toujours été, mon idée quand même a toujours été comme ça de créer un réseau de gens qui ont un goût commun, mais aussi une idée commune du travail, pas uniquement sur le star system, mais sur un travail parfois peut-être moins visible, mais qui par contre souvent donne les meilleurs résultats. Voilà.
Eh bien, je propose qu'on écoute le beau violon de Stéphane Rougier, non pas dans du Bach, mais dans une sonate pour violon et piano de Mozart. Il s'agit de la 26e, la Köchel 378, c'est le premier mouvement Allegro Moderato. Premier mouvement Allegro Moderato de la sonate pour violon et piano numéro 26, Köchel 378 de Mozart, joué par le violoniste Stéphane Rougier, accompagné ici par la pianiste Sophie Teboul. Stéphane Rougier est en concert ce samedi 5 juillet à 19h dans la cour du très beau château d'Issus, où il joue un programme Bach. Ensuite, l'orchestre de chambre Occitania, qui l'accompagnera dans les concertos de Bach, interprétera des œuvres de Mendelssohn et Shostakovich. Le samedi 12 juillet à 20h45 se tient un autre concert dans la cour d'un tout aussi beau château, le château de Montlaur. Vous avez réuni un étonnant casting, le jeune pianiste toulousain Constant Després, le pianiste cubain de jazz cubain Rolando Luna, le mandoliniste Julien Martineau et le ténor François Pardaillé. Le programme est sous-titré « De la Havane à Toulouse, du jazz à l'opéra ». Ça mérite quelques explications, qu'est-ce qu'on va y entendre ?
Oui, en effet, ce titre est un peu très ouvert, on va dire. Oui, alors je dois quand même dire que je ne suis pas le seul programmateur dans l'affaire. Hein. C'est également un choix du propriétaire donc, du château de Montlaur, Arnaud de Batte, qui donc est un passionné de musique et qui affronte depuis maintenant toute une année au moins. Fait un concert chaque année dans son château. Alors, l'an passé déjà, Rolando Luna et Constant Després ont été invités d'ailleurs à Montlaur. Ça a fini par contre à l'église de Montgiscard parce que tout simplement le temps n'était pas de la partie. Mais là je trouve qu'en effet il y a un choix, peut-être un choix, on va dire que la personnalité centrale du concert c'est Constant Després, hein, finalement, puisqu'il va jouer avec Rolando Luna, avec qui il joue régulièrement d'ailleurs, qui est un pianiste cubain très exceptionnel, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, oui.
Et Julien Martineau, bon, là aussi, c'est quelqu'un avec qui Constant Després a joué, parce que tout simplement, il a été invité par Julien dans le festival de Toulouse.
L'an
même
dernier.
Chose pour François Pardaillé,
exact.
Qui était accompagné assez souvent par Constant Després. Donc, vous voyez, l'idée, c'est ça, c'est de construire quelque chose autour de cette personnalité, ce jeune pianiste, un pianiste assez exceptionnel, qui actuellement est en cours d'études au Conservatoire National Supérieur, qui, je pense, finalement, fera probablement une grande carrière, parce que non seulement c'est un pianiste tout à fait virtuose, mais c'est en plus une personnalité suffisamment contrôlé et calme.
Mais il a beaucoup de maturité déjà, beaucoup de maturité, ce garçon.
Alors qu'il n'a que
18-19 ans. Ouais.
Voilà, et donc quelque part, je le connais depuis très longtemps, hein, puisqu'au fond, on a été avec l'Orchestre Chambre Occitania dont je m'occupais à l'époque, hein, en tant que président, et avec Bernard Soustrot, qui en était le directeur artistique, il est toujours le directeur artistique, bien sûr. Nous l'avons découvert il y a maintenant 8 ans par là, quelque chose comme ça. Il était tout jeune, chez lui, et il nous a joué certaines pièces au piano, et on a été étonnés par cette espèce de fond de calme, de maturité. Il est là pour jouer, il joue avec plaisir, et il joue bien. Voilà, bon, ça c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, il sait communiquer ces choses-là. Et donc, nous l'avons fait jouer très vite, dans le cadre justement du Château d'Issus, avec un concert avec l'orchestre de chambre, et aussi au festival de Pâques de Colmar, où il a joué des concertos de Bach. En plus de l'aspect artistique, il y a aussi une notion affective, hein, si vous voulez, dans la relation que nous pouvons avoir avec Constant et ses parents.
Ouais, voilà. Moi, je le suis aussi depuis des années, Constant Després, et je suis frappé, tout comme vous, par la maturité de ce jeune homme et par son parcours sans faute depuis 10 ans, parce qu'il avait fait l'émission Prodige sur France Télévisions. Je crois qu'il n'avait même pas 10 ans. Il n'avait même pas 10 ans. C'est vraiment...
Alors, c'est quelqu'un vraiment de très, très, très attachant, hein, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement simple.
Oui, simple, c'est l'humilité même, effectivement. Voilà. Il n'est pas grosse tête du tout, et je pense qu'il prendra jamais la grosse tête, parce que lorsqu'on ne l'a pas pris à son âge, on ne l'apprend pas ensuite. Voilà, François Pardaillé fait une belle carrière à l'opéra.
Oui,
tous les deux, Constant Després et François Pardaillé sont d'anciens élèves du Conservatoire de Toulouse. Julien Martineau enseigne, lui, il a la classe de mandoline au Conservatoire de Toulouse. Il fait aussi une très belle carrière, c'est un des meilleurs mandolinistes d'Europe.
Ah oui, c'est un.
Et puis Rolando Luna, c'est une star mondiale du jazz cubain, ancien du Buena Vista Social Club.
Voilà.
Et il vient de faire l'ouverture du Festival de Toulouse au Théâtre de la Cité devant un public extrêmement enthousiaste. Alors, il y a un programme extrêmement varié. Hein. Il y aura du calaché pour ce qui concerne la mandoline. Il y aura Asturias d'Isaac Albéniz, la transcription pour mandoline de Julien Martineau. Il y aura Libertango d'Astor Piazzolla. Et il y aura Oblivion, encore Astor Piazzolla. Il y aura du Stevie Wonder. Enfin, ça va être extrêmement varié. Il y aura Alborada de Gracioso de Maurice Ravel par Constant Després au piano seul, l'air de Nadir par François Pardaillé, accompagné par Constant Després. Enfin, il n'y avait vraiment que des petites pépites. Et donc au programme de cette soirée du 12 juillet de la Havane à Toulouse, du jazz à l'opéra au château de Montlaur, il y a le fameux Libertango d'Astor Piazzolla qui va être joué par Constant Després, Rolando Luna et Julien Martineau. Je vous propose d'écouter ce que cela donne.
Thank you.
Albert Tango d'Astor Piazzolla dans la version piano à quatre mains mandoline de Constant Després, Rolando Luna et Julien Martineau, une des nombreuses pépites au programme du concert de la Havane à Toulouse du Jazz à l'Opéra, samedi 12 juillet à 20h45 au château de Montlaur. Et je peux vous dire que le lieu lui-même vaut la visite, donc vraiment je vous encourage à aller voir ce concert, aller y assister. Vous allez passer une magnifique soirée le samedi 26 juillet à 21h dans la cour du château de Saint-Félix de Lauragais, cette fois-ci un grand rendez-vous, la version pour piano de l'opéra de Claude Debussy que vous avez déjà évoqué tout à l'heure, Jean-Jacques Cuben, Péléas et Mélisande. C'est une version qu'avait réalisée Debussy lui-même. Qui va faire la mise en scène pour cette soirée au château de Saint-Félix et quel chanteur va-t-on y entendre?
Alors, Péléas et Mélisande, c'est un vieux rêve, hein, quelque part. Bon, moi j'ai chanté Arkel assez souvent. Et ça a toujours été, pour moi, c'est un de mes opéras favoris. Hein. Je le mets au même niveau que certains Mozart, par exemple, etc. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel. On est ailleurs, il y a une qualité d'originalité et de couleur, etc. Bon, tout ça, c'est des choses que l'on a déjà dites ailleurs. Alors, ce Péléas, finalement, le cours du château, je pense qu'elle se prête tout à fait à ce vieux château du royaume dans le monde dans lequel se passe Péléas et Mélisande. Alors, le metteur en scène, c'est Jérôme de Lignerolles. Je vais commencer par la distribution parce que ça permet de voir la suite. Donc, il y a Marie Cuben, ma fille, donc Mélisande, qui a toujours rêvé de ce rôle, qui a travaillé X fois avec des très bons chefs de chant. Xavier de Lignerolles, donc c'est son bon époux, qui fera Péléas, qui est un ténor. Hein. Frédéric Albou, donc bariton, un très bon bariton. Vincent Le Fexier, qui lui est vraiment une star, quelque part, hein, dans ce type de répertoire, puisqu'il a chanté Arkel à peu près partout, et notamment, il n'y a pas très longtemps encore, au Festival d'Aix-en-Provence. Bon, c'est vraiment une chance de l'avoir, c'est un ami, bon, etc. Ça, c'est l'importance du réseau, quelque part. Hein. Une amitié musicale, une amitié aussi sur des valeurs. Alice Fagar, moins connue, mais très belle voix de mezzo contralto, on va dire. Et Marie Petit-Despierre, bon, ça, c'est le rôle de Guignol. Donc, tous ces chanteurs sont passés sous la direction de Fabrice Boulanger. Fabrice Boulanger, c'est le professeur d'accompagnement du CNSM de Lyon. C'est un super pianiste, il a été réussi à l'Opéra de Paris à un moment donné, comme pianiste chef de chant. Et donc il va assurer à la fois la partie piano, qui n'est pas quand même évidente, hein, et la direction, disons, du piano. Donc d'où la nécessité pour les chanteurs d'avoir une formation quand même assez poussée, parce que ce n'est pas quand même une musique extrêmement facile, et la faire sans chef d'orchestre, c'est encore moins facile. Enfin bon, ça c'est un pari, mais je pense qu'ils le gagneront. Alors Jérôme de Lignerolles, le metteur en scène, évidemment, le même nom que Xavier. Alors c'est un musicien, lui aussi, qui a été formé donc au piano, etc., des instruments, qui a fait un parcours un peu particulier puisqu'il est ingénieur. Mais enfin, il est revenu, disons, à ses premières amours maintenant il y a quelque temps. Il a une compagnie à Grenoble et donc c'est quelqu'un qui lui aussi, je pense, va avoir une autre vision peut-être de Péléas, dans la mesure où c'est pas un spécialiste du lyrique, hein, mais je pense qu'il peut apporter aussi des choses intéressantes de ce point de vue-là, dans l'originalité des choses. Et je reviens sur la version pour piano. Oui, parce que ça, cette version pour piano, c'est Debussy qui l'a écrite lui-même. Ce n'est pas une transcription. Parce que souvent, les opéras, lorsqu'on les met pour piano et chant, c'est quelqu'un qui a fait une transcription à partir de l'original. Là, c'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire que c'est d'abord passé au piano, ça a été présenté ensuite à l'éditeur, et à un moment donné, on lui a demandé, évidemment, de faire une version pour orchestre. À partir de sa version pour piano, il a fait une partition d'orchestre. Donc c'est important de l'entendre dans ce cadre-là. Je pense aussi qu'il y a tout simplement une nécessité, entre guillemets, on ne peut pas se payer l'orchestre de Mélisande. Hein. C'est un énorme orchestre. Moi, je ne le vois pas très bien dans la cour du château de Saint-Félix. Il y aurait beaucoup de place pour les spectateurs. Mais je pense aussi que c'est important de temps en temps d'oser les choses du moment qu'elles sont dans un lien musical cohérent. Hein. C'est-à-dire que ça me semble difficile, par exemple, de monter, Bohème, uniquement au piano. Ça ne me viendrait pas à l'idée, parce que tout simplement, ça n'a rien à voir. Alors que Péléas, c'est une musique qui peut aller très bien avec le piano, à condition évidemment que ce piano ait été celui qu'a voulu le compositeur. Moi, je crois que c'est ça qui est important, une authenticité quand même, hein, dans ce type de... Parce que ça peut paraître surprenant de le monter avec piano.
De toute façon, si Debussy lui avait fait une version pour piano, c'est qu'il pensait que ça fonctionnait aussi bien qu'avec un orchestre, en présentant évidemment quelque chose de différent. Mais ça va être une des curiosités, hein, de cette proposition.
Je pense que c'est vraiment un événement, hein, parce que donner Péléas et Mélisande dans un petit festival, je dis petit festival, parce que bon, je ne compare pas évidemment avec... On le donne au Festival d'Aix-en-Provence, bon, ça me paraît évident, mais enfin, avec les dizaines de millions, ce n'est pas tout à fait la même
chose. Oui, bien entendu.
Voilà. Dans un petit festival, c'est quand même assez exceptionnel d'oser le faire, et j'espère que le public sera sensible à cette volonté, au fond, peut-être de faire connaître à un autre public, peut-être aussi, hein, cette œuvre qui est quand même exceptionnelle.
Ah bah c'est une des merveilles du répertoire de
Ah
l'opéra français, évidemment.
oui.
Et pour que nos auditeurs puissent se faire une idée de la version pour piano que Debussy avait faite de son opéra, voici la scène de la fontaine, un air fameux de Péléas et Mélisande. La scène de la fontaine est extrait de Péléas et Mélisande dans la version piano de Claude Debussy, une version à découvrir dans la mise en scène de Jérôme de Lignerolles et sous la direction de Fabrice Boulanger, samedi 26 juillet à 21h dans la cour du château de Saint-Félix de Lauragais, le dimanche 3 août à 19h à l'abbaye cathédrale de Saint-Papoul. On va remonter vraiment plusieurs siècles en arrière avec le concert de l'ensemble Ut Musica Poesis qui va interpréter les Cantigas de Santa Maria d'Alphonse X le Sage. Voilà qui nous ramène Jean-Jacques Cuben à l'Espagne médiévale et à ses liens avec nos troubadours.
Bien sûr qu'il y a une dimension, la première dimension c'est une dimension occitane, de la langue d'oc on va dire, parce que occitane c'était pas un mot qui existait à l'époque. Mais ces troubadours, il ne faut pas oublier qu'ils allaient de cour seigneurial, hein, de cour en cour, et notamment de l'autre côté des Pyrénées, qui en fait n'était pas une frontière, c'était simplement une traite à franchir. Hein, voilà, donc il y avait des ports qu'on appelle, c'est-à-dire ces passages qui permettent d'aller d'un endroit à un autre, mais tout simplement, on était dans la même lignée culturelle. Et donc Alphonse X, au fond, ce n'est pas un troubadour lui-même, mais enfin, il a ce goût, par contre, de l'art et de la musique, qui est quand même assez exceptionnel chez un souverain. Hein. Beaucoup sont des guerriers. Mais on avait, dans le cadre, par exemple, occitan, on avait le comte de Poitiers, qui lui aussi était un grand guerrier, qui a guerroyé vraiment, notamment aux croisades, en fait, etc. Et c'était un musicien qui lui composait, par contre, des chants de troubadours. C'était un troubadour. Donc vous voyez que cet art des troubadours, c'est quand même un art très élaboré, d'abord, avec un code très particulier, qui était compris au fond par un petit nombre de personnes, il faut être très logique, qui étaient en général des gens appartenant justement à ces milieux aristocratiques. Et donc quelque part, ce n'est pas étonnant au fond de voir ces troubadours aller d'un endroit à un autre parce que tout simplement ils étaient demandés comme des vedettes. Et donc Alphonse X le Sage, lui, s'est intéressé tout particulièrement à cet art-là et donc a rassemblé au fond un ensemble de chants autour de la Vierge, hein, Vierge Marie. En essayant aussi de trouver chez les troubadours ce genre d'inspiration. Il y a des troubadours qui avaient une inspiration tout à fait spirituelle. Hein.
Et pour illustrer le programme de ce concert, nous allons écouter un des Cantigas de Santa Maria, ces louanges à la Sainte Vierge d'Alphonse X le Sage, Pero Cantigas de Lor, c'est une version extraite d'un enregistrement dirigé par Jordi Savall. Pero Cantigas de l'Or, extrait des magnifiques Cantigas de Santa Maria d'Alphonse X le Sage, dans une version dirigée par Jordi Savall. Vous allez pouvoir entendre l'intégralité des Cantigas le 3 août à 19h à l'abbaye cathédrale de Saint-Papoul, interprétée par l'ensemble Ut Musica Poesis, qui est l'ensemble de votre fille Marie Cubaine et de Xavier
voilà,
de Lignerolles.
Voilà, hein. Tout à fait, et donc ils sont accompagnés par quatre musiciens, jouant flûte, viol, percussion et luth. Salterion, ça c'est Jodel Crafté qui était un grand spécialiste de ces musiques-là. Hein. Voilà, donc je pense que c'est une occasion aussi finalement de faire ce parallèle entre Alphonse X et le roi d'un royaume en reconquête, puisque bon, évidemment, à cette époque-là, les Arabes avaient occupé une grande partie de l'Espagne, hein. Et aussi, de l'autre côté, ces troubadours qui, eux, ont perdu leur royaume. Il y a eu la fameuse croisade, hein, croisade des Albigeois, et ils se sont réfugiés à cette cour au fond de ce roi sage. Et donc, je pense que c'est intéressant de voir aussi ce parallèle-là, qui n'est pas uniquement un parallèle musical, mais historique.
Vendredi 8 août à 21h, nouveau concert à Lavore, hein, ce lieu qui est un nouveau lieu du festival. C'est dans la cour de la médiathèque où l'on retrouve encore le pianiste Jonas Vito, mais pour accompagner la mezzo-soprano Marie Kalinine dans un programme de mélodies et chansons de Déodat Sévrac. Et oui, parce que comme la plupart des compositeurs français de son époque, Sévrac s'est essayé à la mélodie et souvent avec beaucoup de bonheur, Jean-Jacques Cubaine.
C'est un petit nombre, finalement, par rapport, par exemple, à Gabriel Fauré. Mais il y a à peu près une quinzaine de mélodies qui sont toutes très belles, parce qu'elles sont originales, d'ailleurs. Il y a différents styles musicaux, et goûts aussi de par rapport à la poésie, bon, puisqu'on en a du Baudelaire, on a de
Verlaine.
Verlaine, bien sûr. Une petite précision par rapport à ces deux concerts à Lavore. Le musée de Lavore, c'est-à-dire le musée du Pays de Cocagne, organise en ce moment, depuis le 17 mai et jusqu'au 21 septembre, une exposition très exceptionnelle consacrée au Sévrac. J'ai bien dit au pluriel, hein. Le père, qui était un peintre très important, le père de Déodat Sévrac, Gilbert, et Déodat lui-même. Et c'est sous-titré « De l'atelier à la scène ». Et je pense que c'est quand même quelque chose d'important pour voir comment, au fond, une famille aristocratique occitane de notre région savait, au fond, cultiver l'art. Parce que le père est vraiment quelqu'un de très exceptionnel. C'est un musicien, il est capable de jouer. Il a formé d'abord les premières leçons à son fils, il a donné les premières leçons à son fils. C'est un peintre très respectable, qui a fait de grandes études à Paris, est allé ensuite étudier en Italie. Je veux dire, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux. Mais par contre, il ne vendait pas ses œuvres, dans la mesure où c'est un aristocrate, on travaille pour le plaisir de travailler. Et je pense que c'est important de les découvrir et de voir aussi le milieu artistique dans lequel il vivait, à la fois à Toulouse, mais aussi les amis peintres, Térus, différents grands peintres de la région, d'ailleurs, qui ont compté, qui sont toujours des peintres reconnus. Alors que Gilbert n'est pas reconnu, pourquoi ? Parce que tout simplement, son œuvre n'est pas sortie de la famille. Elle n'est jamais passée en salle de vente, elle n'est jamais passée, finalement, on ne le connaît pas à l'extérieur. Mais par contre, c'est l'occasion, justement, à travers cette exposition, de connaître Gilbert de Sévrac, qui, moi, je pense, est une personnalité très attachante, très importante, à la fois, tout simplement, pour la formation qu'il a donnée à son fils, et tout ce lien, au fond, avec cette terre lauragaise. Il adorait comme elle adorait son fils.
On a déjà parlé de Jonas Vito. Peut-être un mot sur la mezzo-soprano Marie Kalinine.
Alors, Marie Kalinine est une excellente mezzo-soprano qui a déjà fait une carrière très appréciable. Là, je pense qu'elle a choisi, puisqu'au fond, ce concert a été imaginé aussi par un ami, c'était Alain Jouffré, qui a été à un moment donné à la Vrage de Toulouse, mais qui surtout était à l'origine, au fond, de tout ce travail qui s'est fait à Saint-Félix autour de Déodat Sévrac. Et je me reporte aux années, disons, fin 70-80. Et c'est lui qui, au fond, la connaît bien. Et moi, je suis tout à fait confiance, disons, lorsque je sais que ce sont des personnes de qualité. Elle a choisi, au fond, de faire le parcours dans la mélodie, les mélodies classiques, on va dire, les mélodies de style savant, mais aussi tout un tas de chansons que Déodat Sévrac avait faites pour la grande diseuse, la grande chanteuse qui s'est donnée au chat noir, qui a dessiné Lautrec. C'était Yvette Guilbert. Hein. Et ce sont des chansons, donc, de vieilles chansons françaises, et aussi des chansons du XVIIIe siècle. Et il avait donc composé, arrangé plutôt, tout un ensemble de chansons françaises et de chansons gaillardes, un peu comme l'a fait Ravel avec les chansons gaillardes donc, connues. Et je pense que là aussi, c'est intéressant de voir ce goût qu'a Sévrac, au fond, de la diversité. C'est quelqu'un qui se plaît, au fond, avec d'autres artistes, avec des peintres, c'est comme ça qu'il connaît Picasso, en fait, tous les gens qui ont tourné autour de Picasso à l'époque. C'est une personnalité, finalement, qui est très attachante parce qu'elle n'est pas uniquement consacrée à un but, un seul but, c'est-à-dire se promouvoir. Pour lui, se promouvoir n'était pas quelque chose d'important, c'était pratiquer l'art, et le pratiquer de manière ouverte et, on va dire, fraternelle. Et ça, je pense que c'est important de voir ça chez Sévrac.
Nous allons écouter une des mélodies les plus célèbres, composée par Déodat Sévrac, « Le ciel est par-dessus le toit », sur le poème de Paul Verlaine. Elle est chantée par Victoire Bunel, accompagnée par la pianiste Sarah Ristorcelli. Le ciel est par-dessus le toit, mélodie de Déodat Sévrac sur le poème de Paul Verlaine, chanté par la mezzo-soprano Victoire Bunel, accompagnée au piano par Sarah Ristorcelli. Les mélodies de Sévrac sont donc données le vendredi 8 août à 21h à Lavore, dans la cour de la médiathèque, par le pianiste Jonas Vito, qui va accompagner la mezzo-soprano Marie Kalinine le lendemain, samedi 9 août à 21h, dans la cour du château de Saint-Félix de Lauragais de nouveau, concert du guitariste et chanteur Vicente Pradal, qui présente son nouveau spectacle Sol Libre, où il chante les grands poètes d'Espagne, de France et d'Amérique latine. Est-ce qu'on peut donner quelques noms de ces poètes qui sont au programme du concert-spectacle de Vicente Pradal?
Alors, je crois que Vicente, au fond, avait depuis longtemps envie de chanter en français, et notamment, évidemment, sur des grands poèmes et des chansons reconnues. Et finalement, il ne l'avait pas fait, peut-être par... les mots complexes, il est un peu fort. Mais il y avait un peu ça, c'est-à-dire l'idée, au fond, je suis un musicien espagnol, je ne vais pas m'attaquer à ce genre français alors que j'en suis parfaitement capable. Et là, dans ce spectacle où il est seul, tout d'un coup, il décide d'ouvrir comme ça les portes à autre chose que cette musique espagnole qu'il a toujours pratiquée et qu'il va d'ailleurs présenter évidemment dans ce concert, dans ce récital, mais en lui associant alors des musiciens comme Brassens, principalement Brassens, parce que ça correspond assez à son type de musique, à la guitare. Hein. Je suis désolé là, mais je n'ai pas moi le programme vraiment en tête. Mais je sais que ça sera très passionnant. L'Amérique latine, oui, parce qu'il a fait des choses avec Borges, des grands écrivains.
Neruda, sans doute.
Neruda, oui, tout à fait. Et donc, je pense que ça sera un ensemble comme ça. C'est ses choix personnels, ce qu'il a admiré, ce qu'il aime et ce qu'il a envie de faire connaître, tout simplement. Et de donner, au fond, sa vision de ces musiques-là. Parce que, quelque part, c'est important que l'on reprenne certains grands auteurs, certains chanteurs, les grands chanteurs, les Brassens, les Ferré, etc. Alors, ils ont marqué de leur personnalité, évidemment, leurs chansons, mais je pense qu'on peut aussi les chanter en étant respectueux, quand même, de l'esprit de la chose. Hein, parce que le grand problème, souvent, c'est qu'on modifie tellement les choses qu'on ne les reconnaît plus. Hein. Donc là, je pense que ce ne sera pas le cas de Pradal. Et c'est important, lui aussi, Pradal est un fidèle du festival. Depuis le tout début, je me souviens donc dans le chez Duravant, je crois que c'était le premier festival, c'est-à-dire 94, où il a joué, il a accompagné notamment le ténor Rubén Velázquez, qui à ce moment-là co-dirigeait le festival avec moi. Et donc, c'est quelqu'un de vraiment de très précieux, c'est un ami. Voilà, c'est un ami, mais je pense que l'amitié n'est pas uniquement une question de marchande, entre guillemets. C'est vraiment parce qu'on a envie d'être ensemble et qu'on a envie de partager. Je vous ai dit des valeurs tout à l'heure, parce que je pense que ce sont des choses importantes.
Voilà, donc Vicente Pradal, ce sera le samedi 9 août à 21h dans la cour du château de Saint-Félix-de-Lauragais.
Non, pas dans la cour, là, ça sera dans le salon rouge.
Ah, dans le salon rouge du château.
Plus, donc, un peu plus, disons,
intime.
Oui. La cour, quand même, c'est un grand machin, je pense qu'il y a besoin, pour la chanson, c'est important, c'est l'esprit cabaret, quelque part.
Oui.
C'est bien d'avoir la relation, comme ça, directe avec un public.
Et puis enfin, le vendredi 15 août à 17h, à l'église collégiale de Saint-Félix-de-Lauragais, vous avez invité un duo que l'on connaît à Toulouse pour l'avoir entendu au Festival Toulouse des Orgues, celui que forment l'organiste Yves Rechsteiner et le percussionniste Henri-Charles Caget. C'est improbable sur le papier, mais ça fonctionne vraiment très bien, Jean-Jacques Cuben.
Je pense qu'en effet, ça marche très bien. De toute façon, Rechsteiner est très amateur de ce genre de croisement, entre guillemets. Je me souviens très bien... avec le Festival des Vatévras, nous avions coproduit d'ailleurs avec Toulouse des Orgues, un concert notamment autour des polyphonies corses, avec l'ensemble de Nadine Rossello. Nous avons fait après autour à Chalaparta, donc les percussions basques. Donc c'est quelqu'un qui aime ce genre de voisinage entre les musiques, parce que justement ça apporte quelque chose de supplémentaire. Tout en étant évidemment, c'est joué à l'orgue, hein. C'est pas, il y a l'orgue et les percussions, c'est pas tantôt les percussions, tantôt l'orgue, hein. Confondons-nous. Il y a cette volonté de faire un truc ensemble avec un son nouveau quelque part. Et je pense que Rechsteiner est particulièrement intéressé et aussi intéressant. Hein. C'est quelqu'un de, quand même de très brillant qui, bon, maintenant est à la direction de Toulouse des Orgues, mais qui a fait déjà un parcours très important. Hein.
Oui, oui. Pour les avoir entendus à Toulouse des Orgues, je peux confirmer que ça fonctionne très bien, ce duo orgue et percussion. Ils ont fait paraître un CD il y a quelques années d'arrangements pour orgue et percussion d'œuvres de Mozart et Haydn. Et bien voici le dernier extrait dans cette émission pour vous faire entendre ce duo formé par l'organiste Yves Rechsteiner et le percussionniste Henri-Charles Caget. C'est leur version du fameux Rondo à la Turca, tiré de la sonate numéro 11, Köchel 331 de Mozart.
Thank you.
célèbre rondo à la turca de la sonate numéro 11, Köchel 331 de Mozart, dans la version pour orgue et percussion d'Yves Rechsteiner et du percussionniste Henri-Charles Caget, qui sont donc en concert le vendredi 15 août à 17h à l'église collégiale de Saint-Félix de Lauragais pour le dernier rendez-vous d'été du festival Déodat Sévrac. Voilà pour l'ensemble de la programmation estivale de l'édition 2025. Et pour avoir tout le détail, faire vos réservations et acheter vos billets en ligne, je vous invite à vous connecter au site www.festival-deodat-2-sévrac.fr. Je rappelle d'autre part que le Festival de Toulouse est en cours et qu'il se poursuit jusqu'au samedi 11 juillet. Il reste encore plusieurs concerts très intéressants et la billetterie est en ligne à l'adresse www.festival.toulouse.fr. Merci beaucoup à Jean-Jacques Cuben de nous avoir présenté la belle programmation du Festival Déodat Sévrac 2025. Tous mes remerciements aussi à Coraline Camebrac qui a réalisé cette émission. Le podcast est téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous de rester fidèles à notre écoute en ce début de vacances scolaires. Il devrait y avoir un autre numéro de Mélomanie la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent été musical.